tu veux la référence?
Non, pas peine.
Tu veux la référence de ce midrash? C'est sur le chapitre 60 d'Ishaïa, ok? Sur Kumi Ori Kibaorech. Alors, on a le midrash suivant, une minute. Amar Yitzhak, Rabbi Yitzhak enseigné, Shana Shemelech HaMashiach Nigla, l'année où le Melech HaMashiach se dévoilera, Kol Malchi Umot HaOlam Midgarim Zebazé. Tous les rois des nations du monde se querellent l'un avec l'autre. Alors c'est là que ça commence, ce qui, à mon sens, se réfère un peu à cela. Melech Paras, le roi de Perse, Midgaré de Melech Arabi, se querellera avec un roi arabe, Veholech Melech Arabi le Edom, et ce roi arabe ira chez Edom, Litol Aitsa, pour avoir un conseil. Vous savez, tous ces voyages des Irakiens à Moscou, là. Mehem, Vehoser Melech Paras, et le roi de Perse, reviendra. Bon, le sens de Hoser, ça veut dire par la suite, Mahari de Kol HaOlam, détruire tout le monde, Vechol Umot HaOlam, Mitra Hashim, Mit Bahalim, et toutes les nations du monde seront en tempête et en Behala, et comme on disait, en troupe, hein? Bon, mais vous comprenez en hébreu, ça ne vient pas en français. Paniqué, voilà, exactement. Benoflim al-Benehem, et ils seront face contre terre. Ve yachez otam tirim ke tire yoleda. Ils seront pris de douleur comme les douleurs de l'enfantement. Ve Israël mitzrahashim umit ba'alim. Et en Israël aussi, on sera en tempête et en panique. Ve omer. Les Khan Navo, les Khan Venelech, et on se dira où aller, où partir. Veomer Lahem, et Dieu leur dit, Banaï, mes enfants, Altitiareu, n'ayez pas peur. Kolma, j'ai assiti tout ce que j'ai fait, lo assiti la bishbilchem, ce n'est que pour vous. Ni penema temitiarim, pourquoi avez-vous peur? Altiarou, Altirou, n'ayez pas peur, Giazman, Vivolatrem, le temps de votre délivrance arrive. Or, c'est assez frappant, il ne faut jamais faire des analogies de ce genre, okay? Mais c'est très frappant que lorsque la guerre entre l'Iran et l'Irak s'est déclenchée, il y a eu une panique dans le monde. Ça s'est plus ou moins atténué, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, jusqu'au Japon, on était paniqué, qu'est-ce qu'il va y avoir avec le pétrole, enfin, bref. Et puis tous ces remous qu'il y a dans les rapports entre Israël et l'Amérique et la Russie, qui tournent autour des armes à l'Iran, parce qu'Israël a intérêt à ce qu'aucun des deux ne gagne la guerre. Et vous connaissez toute l'histoire. C'est une panique mondiale. Et actuellement, il y a un risque de guerre mondiale à cause de la protection que l'Amérique veut obtenir des Soviétiques sur le Shahid, la navigation dans le Golfe là-bas. Enfin, je ne sais pas si vous suivez les journaux. Et ça me rappelle d'ailleurs une caricature de Doche dans Mahari. Au moment où cette guerre s'est déclenchée, ça fait déjà 5-6 ans, 7 ans peut-être. On voit un soldat irakien, un soldat iranien se viser avec le fusil, puis un petit israélien dans le coin qui dit « Mon Dieu, qui vise juste tous les deux !» Alors, il y a un problème comme ça. Et alors, vous voyez que Maïmonide déjà enseigné, lorsque se réaliseront les paroles que les prophètes et les sages, dit Maïmonide, on dit à propos de la fin des temps, et toujours la fin des temps, c'est la fin des temps de l'exil, il ne faut pas s'accrocher aux détails. Parce que les prophètes eux-mêmes, ou les hachamim, ont parlé en général. Donc ne cherchez pas des analogies de détails, mais ce qui est frappant, c'est la massivité du fait dont il est parlé, et chez les prophètes, et dans le Midrash. Vous comprenez? En fait, on ne peut pas nier qu'il y a un problème mondial, l'Iran et l'Irak. Et ça s'appelle dans le Yalkut Shimroni, le roi de Perse avec un roi arabe. Et vous savez que les Irakiens, c'est un régime arabe, alors que les Persans sont musulmans, mais pas top, les Irakiens. Bien. D'ailleurs, je me souviens que quand la guerre a éclaté, il y a eu à la Knesset un moment de, comment dire, on a arrêté la discussion parce que le Rav Menachem Hakohen, qui est un Khaver Knesset, a apporté ce Yalkut Shemani à la Knesset et ça a été lu à la tribune. Alors on a arrêté la séance plénière et tout le monde s'est agglutiné au buffet autour du Yalkut Shemani. Mais après, chacun est allé à ses affaires. Enfin, au moins, c'est prévu. Alors, ce que je vous ai annoncé déjà, il y a deux cours. Donc, quand j'ai essayé de vous décrire la typologie des adversaires d'Israël, c'était un des cas qui est peu connu, c'est Abimelech. Alors, Abimelech, c'est le nom de la dynastie qui occupait Eretz Pelachet, non, plus exactement les colonies des Philistins sur la côte de Eretz Knaan, puisque Eretz Pelachet, c'est plus au nord d'Eretz Israël. Et alors, de la même manière que le mot de Pharaon, le pharaon désigne la dynastie en Égypte. Abimelech désignait la dynastie donc de ces Pelishtim. Et on voit que Abraham, finalement, vous raccrochez ça à l'analyse de la Mida d'Abraham, c'est Shalom Achshav. Enfin, je raccourcis, mais vous vous rappelez de cette analyse à l'époque. Et la protection d'Abraham sur Ishmaël qui va très loin. Et nous voyons que Abraham accepte de contracter une alliance avec Abimelech, c'est au chapitre 20, dans la paracha de Vayera, le verset 19, c'est bien, non, 16.
Hein?
D'abord. Et qui est motivé sur le verset suivant, je vais vous donner le verset. Alors, c'est au chapitre 1. Quand il y a eu la querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers d'Abimelech à propos des puits que Abraham avait creusé, c'est bien cet épisode, okay?
Non, c'est
quand
Abimelech a pris ça.
Ah oui, Nachona. Donc c'est là, dans la première rencontre. Et ensuite on retrouvera le deuxième épisode. Mais je vais d'abord vous donner ce verset-là.
C'est à la page. C'est
du 20. Et tu as un Torah Tmima?
Oui. Page 190.
Voilà, vous avez au verset 15 du chapitre 20. Lorsque finalement Abraham contracte alliance avec Abimelech, lorsque Abimelech a reconnu son erreur, bon, c'est un autre thème, le fait que le patriarche dit de sa femme qu'elle est sa sœur, ça on va pas étudier ça aujourd'hui, mais il se dévoile qu'Abimelech a pris Sarah. Alors, cette civilisation a été frappée de stérilité d'ailleurs, et finalement, Dieu se révèle à Abimelech dans le rêve et lui ordonne de rendre Sarah à Abraham. Et là, il y a une première alliance entre Abraham et Abimelech. Et voilà comment c'est formulé. « Vayomer Abimelech, ine artsi lefanecha bato ve'enecha shev. » Première chose, après je verrai le verset suivant. Abimelech dit à Abraham, « Voici ma terre, c'est Abimelech qui parle, devant toi, là où tu veux, installe-toi. » Et Abraham accepte de s'entendre dire de la terre que Dieu lui a promis par Abimelech qui dit ma terre. Regardez à quel point, encore une fois, sans aller dans les analogies de détail, à quel point ça ressemble à ce que nous vivons lorsque les occupants du pays nous disent c'est ma terre, installe tes ghettos dans ma terre. Vous avez vu? Et Abraham accepte. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire ou de mettre en évidence. Et alors Ultsara Ama, à Sarah il a dit, Ine natati elef kesef leahlicha, je te donne 1000 pièces d'argent à ton frère, Ine oulach kesut enaim, ce sera un dédommagement. Je ne traduis pas littéralement kesut enaim, et le Midrash nous apprend que c'est avec cet argent qu'Abraham a dû acheter la caverne de Marpella pour enterrer ça. Bon, un des deux Midrashim qui parle de ce problème. Vous voyez comment c'est lié. Alors ensuite, il y a, à la fin du chapitre 21, une querelle entre les bergers d'Abimelech et les bergers de... et les bergers d'Abraham. Vous l'avez donc à la fin du chapitre 21, à propos des puits. Et finalement, il y a une alliance à Beersheba entre Abraham et Abimelech. Ça veut dire que Abraham a signé une alliance avec Abimelech et la clause est que la terre s'appelle la terre d'Abimelech. C'est pourquoi, quand je vous ai fait cette typologie, je vous ai signalé que la rivalité par Abimelech porte sur la relation à la terre. Elle est au niveau Yitzhak. On retrouvera d'ailleurs Abimelech aussi dans l'histoire d'Yitzhak et avec le même épisode du patriarche qui dit de sa femme qu'elle est sa sœur, et de nouveau Abimelech avec la même scène au niveau de Yitzhak et de Rivka. Bon, comme vous voyez, j'ai des difficultés à parler, mais on reprendra ce thème un peu plus en détail si ça vous intéresse la prochaine fois. Mais je continue. Donc, juste après, nous avons le chapitre 22, qui est le chapitre de la Akedat Yitzhak. Vayi achar advarim haele. Et il arriva, après ces événements, Va'elokim Yisaet Abraham, et Dieu mit à l'épreuve Abraham. Alors le Midrash va interpréter le mot de Dvarim, Ahara Dvarim Aele, à sa manière, en disant que le mot de Dvarim, ça veut dire de parole. Qui a parlé? Et nous avons toute une série de Midrashim qui a parlé en conséquence des événements qui nous sont racontés précédemment. Et Rashi en particulier cite deux de ces Midrashim, il y en a d'autres. C'est le Satan qui parle et Ishmaël qui parle. Je reprends la question d'Ishmaël, d'où on était parti. Et c'est Ishmaël qui formule contre Yitzhak son droit à l'héritage de la terre. Vous vous rappelez de cela? En disant, toi tu as été circoncis à 13 ans, mais moi j'étais à 8 jours, mais moi j'étais circoncis à 13 ans. C'était là qu'on était parti. Vous voyez comme c'est lié? C'est-à-dire, c'est au moment où Abraham semble renoncer au droit à la terre pour Yitzhak qu'Ishmaël réclame le droit à l'héritage contre Yitzhak. C'est clair? Donc, plus profondément que le Midrashim, que l'on connaît habituellement avec le Midrashim, sur Vayahar Advarim Haele, si on prend le pshat de l'expression, et il arriva, que ça veut dire après ces événements, en conséquence de. Que, alors, je vais formuler à ma manière, un peu de cette manière, puisque c'est comme ça, Dieu dit à Abraham, eh bien, ce fils pour qui je t'ai donné cette terre, rends-le-moi. Voilà. Vous voyez à quel point c'est grave, comme. Lien direct entre ces différents événements. J'avais une fois inventé un midrash, et je vous préviens tout de suite, c'est interdit, je ne peux jamais faire ça. Et alors, imaginez Abraham qui prie devant Dieu en lui demandant d'accomplir sa promesse, de donner cette terre qu'il a promis à sa descendance. Effectivement, et ça, je vais vous citer Edmond Fleg, vous avez entendu parler de Edmond Fleg, qui disait une fois. Dieu n'a jamais promis leur terre au peuple et ils l'ont. À nous, il nous a promis. À nous seuls, il nous a promis notre terre et on l'a pas. Il faut réfléchir à ça. Alors, il revient à mon midrash. Alors, Abraham qui prie, accomplis ta promesse. Et Dieu lui répond, tu me demandes d'accomplir la promesse pour ta descendance, laquelle? Les Arabes de Jéricho ou les Juifs de Paris? Oui, oui, c'est pas plus compliqué. Ça veut dire, il y a de nouveau. Ce qui nous est raconté au niveau de l'identité, de l'histoire des patriarches, qui est vécu dans la réalité. Rappelez-vous cette grande phrase, ce grand principe de la Parshanout, Kolma Sheira Laavot Siman Labanim. Tout ce qui est arrivé au père, c'est un signe de ce qui arrive au fils, aux enfants, aux descendants. Alors voilà, en tout cas, une indication en passant concernant le problème de Abimelech. Je le reformule, à partir du moment où Israël s'entend dire, voilà, c'est ma terre, installe-toi où tu veux, mais c'est ma terre. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Quand Abraham a voulu acheter la caverne de Marpella, les Hittites lui ont dit, toi Abraham, tu prends le caveau que tu veux, pourvu qu'on t'enterre, mais en cadeau. Et Abraham dit, non, je veux un shtar kinyan, je veux un contrat d'acquisition. Parce qu'un shtar kinyan, un contrat d'acquisition, même, c'est halakha, même pour une pruta, c'est plus fort qu'un shtar matana, c'est-à-dire un contrat de donation. Et on voit que le souci d'Abraham, le tikkun qu'il va faire juste après, c'est qu'il va falloir qu'il achète cette terre qui lui a été promise. Et alors, nos droits sur l'Eretz Israël, ça commence à l'achat de la caverne de Marpella par Abraham. Et bien qu'Abraham ait pris la précaution d'avoir un star kinyan, et c'est très important d'étudier ça dans la Gemara, à quel point la Gemara utilise la vente du Sdeh Efron pour baser les premières lois qu'elle enseigne sur le mariage, d'ailleurs, dans la Gemara de Kedushi. Alors bien qu'Abraham ait pris cette précaution, il semble que ça ne nous serve à rien, puisque même les autorités de la nation d'Israël ne sont pas sûres que Hébron, ça leur appartient. Bon, ils se sont fait avoir par l'histoire, ils ont construit à côté de Hébron une ville qui s'appelle Kiryat Arba. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des dimensions énormes de ce fait, que ce que la Torah nous raconte de l'histoire des pères, nous le vivons. Voilà ce que je voulais vous citer. Alors je crois qu'on est arrivé à l'heure, je suppose. Oui, pratiquement. Alors écoutez, je suis encore une fois désolé, bien que j'ai fini d'être parmi les désolés Hadash, je suis encore je suis encore obligé de voyager. Donc la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais la semaine d'après, si Dieu veut, on retrouvera le coup. Je crois qu'on aura encore 2 semaines avant la fin de l'année. Alors ce que je vous propose, c'est de rester sur la question de Yitzhak Ishmael, et en particulier d'étudier la fin de cette histoire comme la Torah l'indique. Je donnerai les références à préparer tout de suite. Bessé. Alors je fais un. Je vais te donner la réponse. Oui. Oui, pour une semaine. C'est-à-dire, je ne serai pas là ce jeudi, je viens.
Je crois que je pourrais trouver, c'est un enterrement d'Abraham.
Hein?
Enterrement d'Abraham.
C'est la fin de la prochaine
fois.
Est-ce que je voulais vous demander. Vous aviez l'air de traduire directement, c'est aussi clair que ça, ou est-ce que c'est interprété quand vous lisiez dans le sifra?
Non, là je vous ai annoncé la dernière fois, je vous ai lu directement sur la traduction en hébreu. Okay. Non, mais c'est pas interprété, je vous ai lu exactement ce que
c'est. Vous traduisiez ça,
oui. Enfin, j'ai expliqué un peu.
Oui.